Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Coach Courbis et Walid Acherchour, Génération After, avec en fil rouge, bien sûr, à la fin des huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions. On a parlé de Real Liverpool. On parle maintenant de Napoli Eintracht Francfort avec Johan Crochet. Bonsoir, mon cher Johan.
Bonsoir à toutes et à tous.
Le Napoli, qui n'a jamais été aussi proche de jouer enfin un quart de finale de Ligue des Champions, ça n'est jamais arrivé dans son histoire. 2-0 à l'aller à Francfort.
Moi, je le vois gagnant.
De la Ligue des Champions
ah, bah oui.
Moi, j'aimerais bien. Je ne les vois pas, mais j'aimerais bien.
Sur coach, ça fait un mois qu'il le dit déjà.
Ouais. Ben, écoute,
il est pas en train de se greffer sur une forme.
Je ne vais pas changer ce soir.
Mais Johan, c'est son année, là. Il joue pour une troisième place en quart de finale.
C'est vrai, ça.
Après les 2000 ans.
L'Inter, le Milan et c'est fou, le Napoli.
C'est fou parce que j'en discutais avec Sofiane ce matin à Winamax.
Sofiane
Zouaoui de Génération After. C'est peut-être l'année la plus faible en termes de jeu sur les dernières années en Serie A. Pour moi en tout cas. Je ne sais pas si Johan partage cet avis. Et ils vont, c'est l'année où ils vont en mettre 3. Peut-être que le travail et l'expérience qu'ils ont eu sur les dernières années va permettre à ces trois équipes d'y aller. Mais c'est fou de voir déjà les 2000 ans, plus le Napoli.
Ah oui.
C'est...
Ah oui. Ouais.
Alors qu'on décrivait une Serie A chancelante et sur le déclin. Bon, mon cher Johan, justement, il en parle à l'instant. On va d'abord donner les compos avant de développer la saison du Napoli. Avec toi également, Polo, tu es toujours là pour parler de l'Eintracht Francfort. On n'y croit quasiment plus du tout, évidemment. Tu m'as dit une chance sur 100 éventuellement avec les dieux du foot. On va en parler dans quelques secondes.
Surtout qu'il y a des absents.
Hein. D'abord, les compositions. Aurélien Tersin, commentaire de ce match. Salut Aurélien.
Salut Nico. Bonsoir à tous.
Salut Aurélien.
Alors, du côté du Napoli, du grand classique avec Alex Meret dans les cages, Kim Min-jae et Amir Rahmani dans la charnière. À droite, le capitaine Di Lorenzo. À gauche, Mario Rui. Un milieu de terrain, Lobotka, Zielinski, Franck Anguissa. Et puis devant, évidemment, Gvichak, Varadzrelia, Victor Osimhen et Matteo Politano qui remplace Irving Lozano, le Mexicain qui était titulaire lors du match aller. Et côté Francfort, c'est évidemment très compliqué sans Randal Kolo Muani suspendu, sans Jesper Lindström, le Suédois qui a marqué
le
notamment
Danois,
en Ligue des Champions. Pardon ?
Le Danois, non ?
Ouais, j'ai dit Suédois, pardon, ouais. Oui, exactement. Il est absent, donc Kevin Trapp dans les cages, Evan Ndika, Tuta dans l'axe de la défense, Aurelio Buta à droite, Christopher Lenz à gauche. On change d'ailleurs un petit peu de système du côté de Francfort avec un peu plus de poids offensif. Mario Götze, milieu offensif, avec derrière lui le capitaine Sébastien Rode et Djibril Sow. Et puis devant, Raphaël Boré, le Colombien, avec à sa droite le jeune Ansgar Knauf, prêté par Dortmund à l'Eintracht Francfort. Et puis à gauche, Daichi Kamada, le japonais.
Tout à l'heure, moi, je suis Aurélien pour le coup d'envoi de ce match à 21h. D'abord, messieurs Johan, Polo, un mot sur les images terribles qu'on a vues encore aujourd'hui à Naples. On en avait parlé lundi soir dans l'after. Je rappelle que les supporters de l'Eintracht ne peuvent pas assister au match dans le stade. En revanche, ils étaient bien dans les rues de Naples. Ils se sont battus simplement avec des supporters de Napoli, avec les forces de l'ordre. Mon cher Johan, tu as vu les images aussi, évidemment.
Ouais, évidemment, ça a tourné sur les chaînes d'information sportive en Italie, évidemment. Je ne sais pas si Philippe, auditeur et supporter de Francfort, veut rappeler ce soir, mais on lui rappellera ce qu'on disait lundi sur ce qui s'était passé déjà à Rome, sur pourquoi les supporters de Francfort n'étaient pas autorisés à venir à Naples. Et ils sont venus quand même à 600. Alors, il y en avait 400, entre 400 et 500 à Rome qui avaient foutu le bazar pour rester poli en 2018. Mais il y en avait 600 aujourd'hui qui ont fait n'importe quoi. Et on a assisté à des scènes de guérilla urbaine, tout simplement, avec des voitures brûlées, des voitures vandalisées, des vitrines vandalisées, tout ce qu'on aime voir absolument dans les déplacements de supporters en Europe. C'est absolument honteux, c'est incroyable. Et quand j'entends Séverine dire oui, faut sanctionner l'Italie, c'est pas normal que les supporters puissent pas se déplacer, ben moi je serais le maire de Naples et la préfecture de Naples, je dirais j'imprimerais la déclaration de Séverine, je ferais un petit courrier à l'UEFA, j'envoierais la facture de tous les dégâts qui ont été causés, puis je dirais à régler sous 60 jours, merci beaucoup, au revoir. Parce que c'est bien gentil, mais si Seferin il veut que des matchs à risque, où on sait que des centaines de débiles vont débarquer dans les villes européennes et faire n'importe quoi, bah à ce moment-là, l'UEFA paye. Voilà, paye la sécurité.
Mais c'est horrible d'entendre ça.
C'est terrible. Moi, je trouve les images, elles sont terribles. Parce que pour moi, le football européen, c'est avec des supporters. Ça fait partie de l'expérience. Moi, j'ai fait des déplacements en Europe sur des matchs européens. J'ai adoré ça. L'ambiance est extraordinaire, normalement. Mais quand on a affaire à non pas 5 ou 10 abrutis qui sont souvent difficiles à contrôler, à identifier, etc. Là, quand on en a 6, c'est un petit peu différent.
Polo, rappelle-nous qui sont les supporters, certains supporters bien sûr de l'Eintracht Francfort.
Oui, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que les supporters de Francfort dans ce qui se passait en ce moment à Naples ou qui s'est passé à Naples. Apparemment, il y a aussi des supporters de l'Atalanta qui sont présents. Je sais pas
pourquoi. Ils sont jumelés avec Francfort.
Ouais, ils sont jumelés avec Francfort, donc il ne faut pas dire que c'est que les supporters de Francfort. Et puis la notion de supporter, c'est c'est compliqué de dire exactement ça, parce que moi je sais même pas si ces personnes qui viennent sont membres de l'association. Je rappelle quand même, je vais pas défendre le club de Francfort, mais si tu veux, moi ce que je trouve toujours, c'est qu'on attend du club toutes les solutions. Et moi j'ai un problème avec ça, parce que le président de Francfort, Peter Fischer, est quelqu'un qui a reçu un prix l'année dernière parce qu'il se bat contre l'extrême droite, il se bat contre l'antisémitisme, il se bat contre le racisme à longueur de temps. Il vire lui-même lorsqu'il y avait cette finale l'année dernière contre les Glasgow Rangers en finale de l'UEFA, il avait fait un meeting où il discutait, il y avait des bouffons, je vais dire ça comme ça pour pas être vulgaire, qui étaient là, et il voulait les virer directement de l'association parce qu'il voulait plus entendre ce genre de discours, etc. Donc il y a du travail à faire au niveau de Francfort, c'est une chose, mais moi je pense que c'est une vraie résurgence de la violence dans le football qui dépasse le cadre juste du cas de Francfort, parce que, et puis il y a aussi le problème des images, c'est-à-dire que là on se rend compte que c'est Francfort, que c'est une grosse ambiance en Allemagne. Lorsque ça se passe en 3e ou 4e division dans l'ex-RDA, personne n'en parle. Mais il se passe exactement la même chose. Sauf que ça reste en Allemagne. Il se fait qu'en ce moment.
Je me rappelle quand même rapidement du Nice-Cologne en début de saison, en Ligue Europa Conférence.
Oui, mais il n'y avait pas que des supporters de Cologne. Non, parce que j'ai
certains supporters, anciens supporters du PSG aussi.
Voilà, exactement. Il y a beaucoup plus. Donc,
il y a des problèmes en Italie, c'est pas que allemand.
Tout à fait.
Et moi, ce que je constate aussi, et ça, c'est. Là, par contre, c'est un problème purement allemand, c'est que, et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, ils ont tous adoré en Allemagne revoir ces anciens clubs en Europe, de Francfort évidemment, de Cologne. C'est-à-dire, c'est pas Fribourg, c'est pas l'Union de Berlin, c'est pas des petits clubs entre guillemets. Là, c'est des gros mastodontes du football européen avec une longue histoire qui ont un petit peu disparu et qui reviennent. Et je dis toujours ça, même si c'est pas une excuse, 1% d'idiots de 50 000 personnes dans un stade, c'est toujours plus que 1% d'idiots de 10 000 personnes dans un stade. Et le problème, c'est qu'on se déplace énormément, parce que le supporterisme en Allemagne est très important. Il y a un énorme travail fait par la Ligue allemande pour réguler tout ça, pour éduquer entre guillemets les supporters, etc. Mais il se fait qu'à peu près la moitié du supporterisme allemand ne veut pas rentrer dans ces codes-là. Et c'est en fait c'est ces moitiés de supporters d'associations, mais qui peuvent très bien ne pas être violentes, c'est pas la question. On sait pas d'où ça vient, on sait qu'il y a une résurgence d'extrême droite, l'extrême gauche évidemment est aussi présente dans certains cas. Il y a des choses qui se passent, qui sont aujourd'hui difficilement quantifiable. Ce que je constate, c'est que c'est quand tu analyses politiquement ce qui se passe en Europe, et ben tu vois que cette résurgence, elle est aussi présente dans le football. Et à la rigueur, je veux dire, et c'est encore une fois, c'est pas une explication, c'est presque normal que ça arrive entre guillemets par rapport à ce qui se passe politiquement en Europe.
C'est presque prévisible. C'est ce que tu veux dire exactement.
Le problème, c'est trouver les sanctions et comment. C'est-à-dire dire c'est Francfort, c'est pour moi, c'est pas une solution. Ou demain, on dira c'est Marseille ou c'est Naples ou ça. Mais c'est très complexe. C'est-à-dire qu'il faut durcir les lois. Et il y avait plus de hooliganisme en Allemagne. Ils n'avaient plus tout l'hygiéniste à tel point qu'ils ont annulé tous les textes de loi sur la violence ou la violence policière contre. Et ils sont forcés en ce moment, ils sont en train de réfléchir à savoir comment on la remet, parce qu'il y a une nouvelle forme d'hooliganisme qui arrive, qui est beaucoup plus complexe, je pense, que celle qui se passait dans les années 80, mais il y a toujours les mêmes résultats.
Voilà pour cet avant-match. On n'a pas eu le temps de parler du jeu, malheureusement. Ce sera peut-être sans suspense. On verra ça, on va suivre ensemble. Vous imaginez pas une seconde, les gars? Walid, toi, Francfort?
Ouais, j'ai du mal à l'imaginer. Ouais. Encore plus que pour le Real Madrid.
Même pareil.
Parce que, voilà, Lindstrom et Colomboigny,
ils auraient été au complet.
Pour la profondeur.
Donc,
et encore,
ouverture
évidemment.
Du score de Francfort. Oui, alors maintenant, ils peuvent aussi ouvrir le score sans Colomani, mais enfin, j'y crois pas trop.
Et Napoli est tellement en rouleau compresseur en ce moment. J'ai encore vu le match contre l'Atalanta ce week-end.
Bon, c'est exceptionnel. Victor Osimhen, on voulait en parler avec Johan.
C'est très très fort.
Malheureusement, tu m'en veux pas, Johan. On n'a pas eu le temps. Tu seras là pour le débrief de ce duel entre le Napoli et l'Eintracht Francfort tout à l'heure dans l'after avec Gilbert, Daniel et Lionel. Le coup d'envoi dans un instant de ces matchs, mais nous, on va parler de Nice, dernier représentant français sur la scène européenne, qui l'a emporté 1-0 au match aller en Ligue Europa Conférence et qui va revenir demain soir 21h face au Sheriff Tiraspol. Et puis l'équipe de France, Alice Deschamps, la première liste post-Coupe du Monde. Quels sont les nouveaux tauliers des Bleus? Appelez-nous 32-16 pour en parler. On parlera également de la hiérarchie des gardiens en équipe de France. C'est Génération After sur RMC. À tout de suite.